VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 17h, temps universel. Bonsoir, bienvenue dans l'extrême nord du Cameroun. Les autorités ont interdit le port du voile intégral pour lutter contre les attentats Idriss Fall.
Le gouverneur Midi Yawa Bakary a déclaré que le voile intégral est complètement interdit dans la région de l'extrême nord. Il a ordonné aux gendarmes et policiers d'interpeller toute personne qui braverait l'interdit. Il a aussi prescrit le contrôle systématique des voitures, des bagages, la circulation des motos la nuit et les véhicules aux vitres fumées. La ville de Fotokol, à la frontière nigériane, a subi dimanche sa première attaque suicide perpétrée par deux femmes kamikazes vêtues d'un voile intégral. 11 personnes ont été tuées. À Yaoundé, les fidèles musulmans ne sont plus autorisés à entrer dans les mosquées avec des sacs ou des sachets. Le Tchad voisin, également cible d'attentats de Boko Haram, a interdit le port du voile intégral. Le Gabon, jusqu'ici épargné par les violences, a décidé mardi d'intensifier les contrôles des femmes portant le niqab.
Raid aérien dans le sud de la Somalie. Le ministère kényan de l'Intérieur, cité par l'AFP, compte au moins 30 islamistes d'Al-Shabaab tués dans cette frappe menée par les États-Unis. Ce raid survient une semaine avant la visite au Kenya du président américain Barack Obama. Le raid aérien a été mené par un drone ce jeudi à 2h du matin dans les environs de Yungal et Bader. Selon des témoins, une voiture transportant de hauts responsables Shabaab a explosé. Nairobi affirme que des figures de proue du mouvement intégriste comptant parmi les plus recherchés, dont des organisateurs d'attaques au Kenya, ont ainsi trouvé la mort. Les autorités kenyanes précisent toutefois que Mohamed Mahmoud n'est pas mort dans l'attaque, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé. En Égypte, un bateau de la marine a pris feu aujourd'hui sans faire de victimes lors d'affrontements entre des militaires en patrouille dans la Méditerranée et des djihadistes au large de la péninsule du Sinaï. Le navire a pris feu, d'après l'AFP, à la suite d'un échange de tirs. Le nord du Sinaï est le bastion de la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique qui a tué des centaines de policiers et de soldats dans des attentats spectaculaires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Suite des négociations à Bujumbura sous les auspices de la médiation ougandaise, aucune avancée pour le moment, même si les deux parties poursuivent les négociations. Nicolas Pinault.
C'est le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, qui est arrivé ce jeudi à Bujumbura. Il a pris le relais de son président, Yoweri Museveni, qui assure cette médiation entre les différents acteurs de cette crise burundaise. La rencontre a débuté en fin d'après-midi avec les représentants de la société civile. Chaque camp reste ferme sur ses positions. Pierre Nkurunziza veut aller aux élections qu'il est sûr de remporter pour un troisième mandat. L'opposition, elle, dénonce toujours le non-respect des accords d'Arusha et de la constitution burundaise qui limite à deux mandats chaque président burundais. A noter que le nouveau président burundais doit prêter serment le 26 août, sans quoi il y aurait un vide juridique. Les violences se sont intensifiées ces dernières semaines et le week-end dernier, l'armée burundaise a affronté un groupe armé dans le nord du pays, dans des provinces frontalières du Rwanda et de la République démocratique du Congo.
L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, a appelé à la reprise rapide de la coopération entre les FRDC et la MONUSCO dans les opérations militaires contre les rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Eddy Sango.
Selon Radio Okapi, Saïd Djinit a rencontré mercredi à Kinshasa le président Joseph Kabila pour discuter de la situation dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo. Il était accompagné du secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et les entretiens avec M. Kabila ont également porté sur la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Toujours selon Radio Okapi, M. Djinit a exprimé le soutien des Nations Unies au processus de rapatriement des éléments des FDLR installés provisoirement dans des camps de transit en RDC. Par ailleurs, il a appelé à la reprise rapide de la coopération entre les FRDC et la MONUSCO dans les opérations militaires contre les FDLR. La MONUSCO a suspendu début février dernier sa coopération dans l'attaque des FDLR à cause de la présence dans la chaîne de commandement de deux généraux congolais soupçonnés de graves violations des droits de l'homme.
Et le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu dimanche aux États-Unis pour une visite de 4 jours. La guerre contre le terrorisme et la lutte contre la corruption seront au cœur de ses discussions lundi avec son homologue Barack Obama.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le président Barack Obama s'est rendu dans une prison aujourd'hui pour une bonne cause. Camille Gros-Didier.
En devenant le premier président en exercice à visiter une prison, celle d'El Reno dans l'Oklahoma, le président Barack Obama entend braquer les projecteurs sur les failles du système carcéral américain, parmi les plus coûteux et les plus surpeuplés au monde. But de l'opération, attirer l'attention sur sa nouvelle campagne visant à réformer la justice et le système carcéral. Monsieur Obama devait rencontrer des responsables de la prison ainsi que des prisonniers non violents condamnés pour trafic de stupéfiants. Dans un discours en début de semaine, le président a plaidé en faveur de la réduction ou de l'élimination des peines minimums obligatoires. La population carcérale des États-Unis a doublé en 20 ans, a constaté Monsieur Obama. Il a également évoqué les effets pervers du placement à l'isolement complet, invitant le Congrès à adopter la réforme qu'il propose d'ici à la fin de l'année.
L'Eurogroupe, qui s'est réuni en conférence téléphonique ce jeudi, a validé l'idée d'un prêt relais de 7 milliards d'euros pour la Grèce. Les créanciers BCE, FMI et Commission européenne estiment que la Grèce s'est acquittée de manière satisfaisante et attend des exigences de la zone euro pour lancer des négociations sur un nouveau plan d'aide après l'aval donné dans la nuit par le Parlement grec à une série de réformes. Jacques Aristide.
Athènes s'est vu décerner ce jeudi un satisfecit de Bruxelles après le feu vert des parlementaires grecs aux réformes réclamées par ses créanciers, touchant notamment la taxe sur la valeur ajoutée et les retraites. La Banque centrale européenne a, elle, relevé ce même jeudi ses prêts d'urgence aux banques grecques. Leur dernière source de financement, la hausse de 900 millions d'euros accordée, correspond à ce qu'avait demandé la Banque de Grèce pour ses banques. Le vote du Parlement grec était une condition sine qua non posée lundi par la zone euro à Athènes à la poursuite d'un processus qui pourrait aboutir à la signature dans quelques semaines de nouveaux plans d'aide évalués entre 82 et 86 milliards d'euros sur 3 ans. Formellement, les négociations sur ce troisième programme ne pourront s'ouvrir qu'une fois obtenu l'accord du Parlement allemand qui doit voter vendredi.
Et l'enquête américaine autour du scandale de corruption à la FIFA a connu un nouveau rebondissement ce jeudi avec l'annonce par la Suisse de l'extradition mercredi vers les États-Unis de l'un des 7 responsables du football mondial arrêté à Zurich. C'était le 27 mai dernier. Cet homme, qui refuse que son nom soit publié par les autorités suisses, a été pris en charge dans la capitale suisse par 3 policiers américains qui l'ont escorté jusqu'à New York, a précisé l'Office fédéral suisse de la justice. Il s'agit de la première extradition d'un détenu par la Suisse vers les États-Unis dans le cadre de cette affaire. Et retour donc sur les principales nouvelles de ce journal. Dans l'extrême nord du Cameroun, les autorités ont interdit le port du voile intégral pour lutter contre les attentats. Le Tchad voisin également, la cible d'attentats de Boko Haram, a interdit le port du voile intégral. Le Gabon, jusqu'ici épargné par les violences, a décidé mardi d'intensifier les contrôles des femmes portant le niqab. Et puis le raid aérien dans le sud de la Somalie, le ministre kényan de l'Intérieur cité par l'AFP, je l'ai dit, compte au moins 30 islamistes d'Al-Shabaab tués dans cette frappe menée par les États-Unis. Ce raid survient une semaine avant la visite au Kenya du président américain Barack Obama. Le raid aérien a été mené par un drone américain ce jeudi à 2h du matin dans les environs de Yungal et de Bader. Selon des témoins, une voiture transportant de hauts responsables Shabab a explosé. Nairobi affirme que des figures de proue du mouvement intégriste comptant parmi les plus recherchées, dont des organisateurs d'attaques au Kenya, ont ainsi trouvé la mort. Les autorités kenyanes précisent en revanche que Mohamed Mohamoud n'est pas mort dans l'attaque, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Restez avec nous dans environ 20 minutes. Le Monde aujourd'hui, qui vous sera aujourd'hui présenté par Chérubin Dorsil et Morgan Guiriec. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.